Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Bien, vous savez qu'au cours des derniers mois, j'ai beaucoup parlé des ondes électromagnétiques. C'est devenu un sujet récurrent parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me poser des questions là-dessus, à m'envoyer de la littérature, des recherches. Il y a vraiment de plus en plus de gens au Québec qui sont conscients et surtout, je dirais, inquiets de ces ondes, de ces fameuses ondes électromagnétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui estiment ressentir leurs effets. Et c'est pas dans notre tête, notre petite madame, là, c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment des effets. Moi, je peux vous dire, j'ai rencontré dernièrement une dame qui a été foudroyée et à la suite de ce coup de foudre, elle est devenue beaucoup plus sensible aux ondes électromagnétiques. Vous allez avoir l'occasion d'ailleurs de voir son histoire cet automne dans une série de documentaires sur la météo que je suis en train de produire pour Canal D. Il y a beaucoup de gens foudroyés au Québec d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Mais bref, on peut pas être humain et ne pas être touché par l'environnement, surtout si cet environnement subit des ondes et qu'on joue nous-mêmes avec une technologie qui de plus en plus augmente ces ondes-là. Alors, je voulais qu'on revienne là-dessus, surtout pour vous donner des conseils. Comment on peut essayer de se blinder, se parer contre ces ondes électromagnétiques? Madame Foudroyer, elle s'est fait une espèce de cape. On parlait tout à l'heure avec la docteure Laberge de l'époque où on se faisait griller avec du papier d'aluminium pour augmenter les effets du bronzage. Mais elle s'est fait une espèce de cape. Un peu en papier d'aluminium pour essayer de contrer les ondes. Est-ce que ça marche? Elle dit que ça marche pour elle. Il y a de plus en plus de gens qui disent « Ouais, mais c'est difficile de savoir vraiment quoi faire, comment agir, quoi penser de tout ça. » Paul Héroux est agrégé de toxicologie et d'effets sanitaires de l'électromagnétisme à l'Université McGill. C'est assez complexe comme titre. Merci d'être là, Monsieur Héroux. On s'est parlé la dernière fois, puis on était revenu sur l'importance de parler aux auditeurs et auditrices de ces ondes et surtout de s'en protéger. Donc voilà pourquoi on refait ce sujet aujourd'hui. Avec nous également Stéphane Belinski, qui est technicien en hygiène électromagnétique. Vous n'avez jamais entendu ça non plus, hein? En tout cas, c'est de plus en plus... c'est rare, mais ça va être de plus en plus fréquent qu'on va l'entendre. Il a fondé et il est président de 3E. Bonjour, Monsieur Belinski.
Bonjour.
Là, on dit qu'une personne sur trois au Québec serait sensible aux champs électromagnétiques et ressentirait toutes sortes de symptômes. Paul Héroux, racontez-nous un petit peu, on reprend ça depuis le début pour ceux qui auraient manqué ça. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, on parle de quelle sorte d'ondes?
On parle d'ondes électromagnétiques qui sont en fait semblables à la lumière, mais de fréquences différentes. Ce sont des ondes non ionisantes. Et il y a des éléments dans la société qui voudraient nous faire croire que ces ondes-là n'ont aucun impact physiologique sur la santé, mais c'est faux. Cette notion-là est dérivée de purs intérêts commerciaux. Donc, ces ondes-là, avec les plans de déploiement de la technologie, vont augmenter de manière considérable. Et à chaque fois qu'ils ont des besoins supplémentaires pour déployer plus de gadgets, l'industrie change ses opinions vis-à-vis des limites sur la santé. Donc, on veut augmenter les limites, encore une fois, pour déployer la 5G et l'Internet des objets.
Mm-hmm. Le 5G, c'est quoi exactement? Expliquez aux gens, j'en parlais hier, puis les gens me disaient, c'est quoi? De quoi tu parles, 5G? C'est pas tout le monde qui est au courant là, de sa venue au Canada.
C'est un nouveau déploiement des antennes cellulaires qui va amener de plus petites antennes devant votre maison, essentiellement à toutes les cinq maisons, il va y avoir une antenne. Et ces antennes-là ont des buts très précis. Premièrement, elles vont rendre votre maison transparente. Et deuxièmement, elles vont progressivement transformer les citoyens en fourmis.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bien, premièrement, ces ondes-là vont être capables de pénétrer à l'intérieur de votre maison.
Et de voir tout ce qu'on fait. Décoder tout ce qu'on fait.
Décoder. Il va y avoir des émetteurs que vous allez acheter vous-même. En d'autres termes, vous allez payer lorsque vous achetez un produit pour avoir un émetteur inclus. Donc, ils vont recueillir ces antennes-là. Ces antennes-là vont recueillir l'information issue de ces objets-là. Et ils vont pouvoir également envoyer des instructions à ces objets-là. En d'autres termes, avec ce déploiement-là du 5G qui supporte l'Internet des objets, tous les objets que vous allez acheter vont être contrôlés par d'autres.
Mm-hmm. Donc, avec notre, comme vous le dites, avec notre bénédiction, parce que c'est nous qui vont les avoir achetés parce qu'on trouve que c'est donc pratique.
C'est ça. Mais naturellement, l'industrie ne s'encombre pas de vous demander la permission pour avoir ces informations-là. L'industrie assume que si elle a la capacité technique de recevoir ces données-là. Ces données-là lui appartiennent. Et donc, c'est pour ça qu'on déploie le 5G, parce qu'on va pouvoir, en grande quantité, engranger ces informations-là. Et qui a les moyens d'utiliser ces informations-là, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des grandes sociétés, ce sont des gouvernements, gouvernements locaux ou gouvernements étrangers. Donc, quand je dis que ça rend les citoyens comme des fourmis, ouais, c'est que ça augmente le pouvoir des gens qui ont les moyens d'utiliser cette information-là, et ça réduit l'autonomie des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, c'est une atteinte presque directe à la démocratie.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimerais vous entendre là-dessus, Stéphane Belinsky, parce que, bon, je vous ai présenté comme un technicien en hygiène électromagnétique. Vous faites ça depuis 15 ans. Et vous avez déjà dit que finalement, tout ça, là, c'était comme une espèce c'est vraiment incroyable, en fait, ce qu'on accepte.
Bien, avec les années, à force de mesurer, on voit le déploiement. On met maintenant des micro-antennes un peu partout dans nos lieux de vie. Donc, les antennes sont à proximité de nos corps, de nos voisins. Donc, les niveaux d'exposition, non seulement l'intensité, mais les quantités de fréquences mesurées explose à tous les jours. Donc là, on se doit peut-être de commencer à être conscient de ce qu'on met dans notre environnement pour gérer ces technologies-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de sacrifier beaucoup de notre luxe et de notre agrément quand les technologies nous amènent. Mais il faut faire attention de la façon qu'on les utilise, parce que l'exposition va varier grandement en fonction de cette façon-là.
On dit un Québécois sur 10 sera affecté par les champs électromagnétiques, mais il y en a un sur 3 qui, là-dessus, qui en subirait des effets quand même importants, des maux de tête, en passant par la fatigue, de l'insomnie. Vous dites même, Stéphane, c'est carrément un scandale sanitaire. C'est pas normal qu'on joue avec la santé publique comme ça. C'est à ce point grave?
Oui, ben, si on le suit entre autres sur Dr. Robert O'Becker, qui est deux fois candidat prix Nobel de médecine, qui a étudié spécifiquement ce domaine-là. Il dit que c'est le plus grand scandale sanitaire que l'humanité ait connu. En fait, quand on regarde certains journalistes d'enquête, on voit que c'est les mêmes approches que l'amiante, par exemple, la cigarette, ou quand j'étais au cégep, c'était marqué éviter d'inhaler sur les paquets.
Ouais.
Alors que les gens qui achètent les cigarettes, c'est pour inhaler, n'est-ce pas? Donc, on voit tout un peu les mêmes scénarios, les mêmes raisons nous apporter. Les indicateurs économiques sont là. Les gens qui nous protègent ont un énorme bénéfice entre les deux. Donc, tous les petits avertisseurs, disons, pour nous dire que, bon, il faudrait faire plus, sont là. Donc, moi, ce que j'observe depuis 15 ans, c'est que les gens nous appellent quand ça va pas bien souvent, que ce soit des productions animalières ou des humains. Et je vous dirais qu'à peu près 7 fois sur 10, on va de améliorer un peu, à changer carrément l'état de santé de la personne. Puis ça, c'est sans compter que tous ces gens-là sont au moins potentiellement cancérigènes, classe 2B, et qui devraient probablement être classés cancérogènes, si je me fie à certains spécialistes. Donc ça affecte tout le monde et toute forme de vie aussi, là. Pas juste les gens qui, à court terme, ont des symptômes.
Mais quel genre d'intervention vous faites là, pour dire on arrive quelque part, puis 7 fois sur 10, on finit par réussir à changer la vie de la personne qui en ressent des symptômes de ces ondes électromagnétiques?
Ben, les gens nous appellent souvent, ils ont déjà fait beaucoup de recherches. Ils ont des maux de tête, des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes de concentration. Les enfants ont des enjeux, sont médicamentés. Donc là, on commence à se poser la question, y a-t-il quelque chose dans l'environnement qui pourrait nous affecter? Donc, nous, il y a comme 3 volets. Quand on fait une expertise, on est équipé comme la NASA, là, on suit toutes les méthodologies appropriées. On va regarder qu'est-ce qui est imposé de l'environnement à travers les murs de la maison vers les gens à l'intérieur de la maison, les intensités, les fréquences, les pénétrations, par où ça rentre, qu'est-ce qui est avantageux si on veut bloquer. On va regarder ce que la maison elle-même nous donne comme exposition. Et en troisième volet, les appareils qu'on branche ou qu'on utilise dans la maison. On fait la différence avec tout ça. Et puis, on fait des scénarios d'évaluation. Puis, on propose des approches à faible exposition pour les gens ou carrément des protections quand les expositions sont imposées de l'environnement à travers le monde.
Il y a Michel qui m'écrit, peut-on avoir des exemples concrets, des solutions? Évidemment, on en veut tous pour se protéger de ça. Paul Héroux et Stéphane Belinsky sont dans le domaine. Qu'est-ce que vous suggérez, Stéphane et Paul? Stéphane?
La première approche, je vous dirais, c'est de gérer la miniaturisation des dispositifs mobiles dans votre maison. Pour avoir l'environnement, ce que l'environnement vous impose et la maison, ça vous prend en général une bonne expertise. Parce que c'est invisible, inodore, incolore. Donc, on peut voir une antenne à quelque part, mais il y a peut-être un autre qui vient changer la donne. Mais par exemple, le cellulaire, les cellulaires modernes ont 3 antennes puissantes. La plupart du temps, vous ne les utilisez pas, ces antennes-là, et elles sont toujours actives. Donc, on va recommander fortement de conserver une ligne filaire à la maison et donc favoriser l'utilisation de la ligne à fil, aller sur Internet avec un fil.
Vous nous ramenez au bon vieux téléphone analogue, c'est ça que vous suggérez, c'est ça?
Bien, le bon vieux téléphone,
à
oui,
roulette.
Si on veut, le bon vieux. Non, pas forcément à roulette, j'en ai un très moderne.
Non, il y a des pitons aussi, oui, oui.
On n'est pas obligé de retourner à l'âge de pierre.
Non, quand même, oui, oui.
Et puis là, ben, ce qu'on peut faire, vous devez être rejoint par votre cellulaire. Vous faites un retour d'appel en rentrant dans la maison. Donc, quelqu'un qui vous appelle sur votre cellulaire, c'est votre téléphone de maison qui sonne. Vous pouvez passer des heures là-dessus. Ça vous permet de désactiver les 3 antennes sur votre cellulaire. Et pendant que vous êtes à la maison...
Attendez, moins... c'est parce qu'on sont où les antennes dont vous parlez? C'est mon Moi, j'ai mon cellulaire. Sont où les 3 antennes, là?
Ben, vous avez le Bluetooth.
Ils sont dedans. Paul me dit, ils sont dedans ton téléphone.
Oui, oui, ils sont cachés à l'intérieur. C'est le boîtier, en fait, qui compose les antennes. Fait que quand vous le tenez dans votre main, les antennes sont collées à votre corps, ce qui est non recommandé par le manufacturier. La majorité des manufacturiers vont vous dire de garder à environ 1 cm de distance avec les antennes parce que sinon, vous êtes dans l'effet thermique. Donc, vous commencez à chauffer. La peau commence à chauffer. Et même l'intérieur, si vous le mettez à votre tête, les glandes à l'intérieur vont commencer à avoir un effet de chaleur. Donc, pour éviter ça, les instructions de votre manufacturier, si vous prenez le temps de lire, c'est de ne pas coller le cellulaire à votre corps. Mais même si vous ne le collez pas à votre corps, vous êtes dans l'effet thermique, mais vous avez encore tous les effets non thermiques qui sont très bien connus depuis une 50aine d'années. Et pour éviter ça, ben on au moins à la maison, parce que déjà au travail, sur la route, on est déjà exposé, on est en mouvement, on a besoin d'être rejoint, OK. Mm. Mais quand vous arrivez à la maison, pour les enfants, pour vous, ben, c'est de vous donner une pause en favorisant, vous avez besoin d'aller sur la télévision, sur Internet, ben, c'est câblé, vous rentrez un câble dans la télévision, vous désactivez les antennes Wi-Fi. Donc, juste en faisant ces précautions-là, on réduit beaucoup l'exposition et c'est relativement très peu dispendieux.
Incroyable. Paul Boisvert? Paul Héroux, avant la pause.
En réalité, la chose que je considère la plus importante, c'est que je me demande comment... les gouvernements peuvent donner des permis pour déployer dans l'environnement des émetteurs qui émettent des ondes électromagnétiques, même lorsqu'ils ne remplissent aucune fonction. Comme Bell, par exemple, Bell 3000, émet des radiations même si l'utilisateur ne le met pas en fonction. Ça, je trouve que c'est vraiment une attitude tellement pauvre. Premièrement, du point de vue de l'ingénierie, ça n'a pas de sens.
C'est quoi Bell 3000?
C'est un hub domestique pour la télévision. Okay. La télévision sans fil. Vous pouvez déplacer votre télévision partout. Il n'y avait pas de méthode pour éliminer ces radiations-là, même quand on ne l'utilisait pas. Du point de vue de l'ingénierie, ça n'a pas de sens parce que ça génère des ondes sans raison. Et du point de vue sanitaire, c'est un crime contre l'humanité.
Mm. Wow. OK. C'est beaucoup. C'est fort de dire ça. En même temps, ça doit nous conscientiser. Je rappelle que M. Héroux est l'un des 170 scientifiques qui a signé une lettre qui a été envoyée à l'ONU et qui interpelle les gouvernements pour qu'ils freinent le déploiement de la technologie du 5G. Vous me corrigez si je m'égare. Parce que vous dites qu'il n'y a pas assez d'études qui ont été menées quant à ses effets sur la santé et l'environnement. Donc, on peut pas. Ça comporte des risques importants pour la santé. Et donc, on ne peut pas comme ça déployer ça à la grandeur. Avez-vous une réponse de l'ONU?
Non, il n'y a aucune réponse de l'ONU. Naturellement, l'ONU n'a
pas... Notre médecin de famille, finalement, ils ne répondent pas non plus. Ça va bien, on envoie des lettres, personne ne répond.
Effectivement. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas de faire des études sur la 5G. Avec la 2G, la 3G et la 4G, on en est déjà venu à la conclusion que ces ondes électromagnétiques-là sont biologiquement actives et qu'elles augmentent le cancer, tel que démontré par plusieurs études chez les animaux, et que donc on ne devrait pas augmenter la dose. Ces radiations-là augmentent également le taux de maladies chroniques comme Alzheimer, Parkinson's, l'autisme et tout ça. On n'a pas besoin d'augmenter cette dose-là dans l'environnement. On devrait développer nos techniques de télécommunication dans une direction différente qui utilise davantage la fibre optique qui est incroyablement plus rapide. Et donc, réduire l'environnement sans fil, augmenter notre débit de données en utilisant de la fibre optique.
Pourquoi on ne le fait pas? Une question de coût?
C'est parce que c'est plus lucratif de vendre des téléphones cellulaires et des abonnements à des téléphones cellulaires que d'amener une seule fibre optique dans un bâtiment à bureau. Et cette fibre optique-là peut servir essentiellement le bureau au complet.
Mais en même temps, bon, vous dites qu'on devrait continuer de développer la fibre optique et non pas les réseaux sans fil. Mais ça ne va pas s'arrêter, là. C'est comme si on est tout petit. Vous êtes peu nombreux à dire ce que vous dites, Paul Héroux, Stéphane Belinsky. Et c'est des grands consortiums, c'est les GAFA, les Google, Apple, de Facebook, tout ça de ce monde qui mène le monde. Là.
Mais en réalité, c'est pas vraiment eux.
Les gouvernements, avec la bénédiction et des gouvernements.
C'est que les vendeurs, ils accomplissent leur fonction de vendre le plus d'émetteurs possible. Et ceux qui sont en faute,
c'est les gouvernements.
Ce sont les gouvernements qui leur donnent l'autorisation de faire ça, d'augmenter le niveau de radiation à des limites qui sont les limites de la cuisson. Et ils ont fait ça, les gouvernements, parce qu'ils étaient mal informés et qu'ils ont été essentiellement, recrutés par les vendeurs de l'industrie au cours du temps. Et ils ont passé des législations qui leur donnent des limites extraordinairement élevées.
Il y a Louis-Philippe qui dit qu'il est apiculteur et que l'augmentation des ondes électromagnétiques affecte beaucoup ses abeilles. Louis-Philippe, appelez-moi si vous pouvez, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Si vous avez des questions, c'est le moment. À tout de suite, tout le monde. À la beauté de la radio, je dis Louis-Philippe qui m'a écrit, l'apiculteur, appelez-moi, il m'appelle. Louis-Philippe, merci d'appeler. Comment vont vos abeilles?
Ah, pas très bien. Déjà qu'il y a beaucoup de polluants dans les champs. Maintenant, ils vendent du Roundup aux domestiques pour les pissenlits domestiques. Avant, c'était juste commercial. Maintenant, c'est rendu domestique. Fait que les abeilles sont attaquées tout bas, tout côté. Puis avec le changement climatique, on a des automnes et des printemps assez désastreux.
Et vous m'écriviez que ça affecte beaucoup vos abeilles, là, les ondes électromagnétiques. Vous dites avec le 5G qui arrive, ça va être une hécatombe pour les insectes?
Absolument, absolument. Parce que, tu sais, on parle beaucoup là, du syndrome d'effondrement des colonies. Ouais. C'est que les abeilles, ils rentrent plus à la ruche. Ils savent pas pourquoi. Les colonies en santé, du jour au lendemain, se dépeuplent puis il n'y a plus d'abeilles.
Est-ce que
ça
serait
à la grandeur d'Amérique là, c'est répertorié.
Est-ce que vous diriez, Louis-Philippe, là, que c'est peut-être à cause des ondes qui sont trop nombreuses, trop fréquentes, puis là les abeilles sont un peu perdues là-dedans, ça vient jouer.
J'en suis convaincu parce que tu sais les parasites comme le varroa, puis les différentes maladies virus que les abeilles ont. On peut les contrôler d'une certaine façon, puis jouer avec nos colonies pour comme les tenir tout le temps fortes, les diviser, faire des nouvelles reines. Il y a toujours moyen de jouer avec la nature pour fortifier nos colonies. Mais quand c'est les ondes, les colonies du jour au lendemain qui sont super fortes, se dépeuplent dans le temps de le dire, c'est pas dû aux pesticides. Les pesticides vont les rendre bizarres, ils vont tourner, ils vont crever, ils vont agoniser. Tandis que là, ils cuisent carrément dans les airs, puis ils s'effondrent à terre, puis ils meurent.
Mon Dieu.
Puis là, ça, c'est quand c'est des fréquences au-dessus de 10-12 GHz. Mais là, avec le 5G, ça va être du 50 GHz. Écoute, c'est même pas imaginable des catons qu'il va y avoir pour les insectes. Ça veut dire toute la chaîne alimentaire des animaux. Puis j'imagine même pas qu'est-ce que ça peut faire pour l'humain à l'intérieur. On cuit littéralement de l'intérieur. Donc, moi, pour mes abeilles, là, regarde. Ça fait déjà 15 ans que je fais ça, puis c'est de pire en pire à chaque année. Mais là, avec l'effondrement des colonies, comme qu'ils disent, le syndrome, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, tout le monde pointe vers les ondes
électromagnétiques. Aïe. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien, Louis-Philippe. Michel, bonjour. Avez-vous une question, un commentaire?
Oui, en fait, une question et un commentaire. La question est concernant le déploiement éventuel du 5G.
Oui.
Est-ce que non seulement ça va décupler le nombre d'antennes, mais est-ce que la force du signal aussi va être différente?
Question peut-être pour Paul Héroux.
Oui, effectivement, à cause des caractéristiques de propagation de ces ondes-là, d'absorption dans l'atmosphère et de l'ouverture des antennes, les ingénieurs ont appliquer pour avoir des augmentations de doses pour permettre le déploiement de ces systèmes-là. Donc, naturellement, les systèmes sont là pour vous inciter à utiliser plus les systèmes sans fil, mais ces systèmes sans fil-là vont fonctionner à des intensités de champ supérieures.
Et on va mettre beaucoup, on va mettre de nombreuses.
Oui, Stéphane Belinsky, oui, un petit rajout?
Oui, ben oui, c'est plus fort, c'est un peu moins pénétrant. Les antennes sont plus fortes et il va en avoir de très nombreuses. On va multiplier le nombre d'antennes.
Oh, incroyable. Voilà, Michel, pour votre commentaire et question. Il y a Benoît qui dit « Je me demande si toutes ces ondes ne finissent pas par faire augmenter la température, ce qui rajoute à l'équation du réchauffement climatique. » Paul Héroux là-dessus, peut-être?
Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ouais. En réalité, malgré tout, c'est une augmentation de température dans l'air qui est extrêmement légère parce que l'air absorbe assez peu ces radiations-là.
Wow. Bon, mais sincèrement, c'est plusieurs facteurs, mais peut-être que celui-là peut jouer aussi. Stéphanie, bonjour.
Bonjour. Je me demandais avec l'avenue du 5G, ils viennent cogner à notre porte et disent « Vous avez été choisi pour avoir une antenne, on a-tu le droit de refuser? »
Vous savez, avec les compteurs d'hydro, les nouveaux, là, vous aviez le droit de dire que vous n'en vouliez pas. Là. Moi, ça a tout pris. Là. Ils ont fini par... Ils me l'avaient enlevé dans mon dos. Ils me l'ont mis. Mais ils me le chargent, par exemple.
Mais l'antenne, on va l'avoir.
Oui, il y a ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Paul, Stéphane, avez-vous...
Tout a été fait du point de vue légal pour que ça soit impossible de refuser l'implantation d'une antenne. En d'autres termes, ce qui est particulièrement, je dirais, moralement répréhensible, c'est que c'est une exposition obligatoire aux ondes électromagnétiques. Si vous voulez avoir du Wi-Fi en quelque quantité que ce soit chez vous, je n'ai pas d'objection, mais n'imposez pas cette exposition-là aux autres, en particulier pas aux électrosensibles.
Complètement, franchement. Je parle aux insectes, puis il y a des gens qui me disent effectivement que vous venez d'apprendre la mort de Georges-Henri Brossard. Georges Brossard, en fait, monsieur insecte, monsieur insectarium, il a fondé, c'est lui qui a fondé l'insectarium de Montréal. C'est un entomologiste très connu qui donc est décédé ce matin. Il a laissé un héritage assez important, l'insectarium. On parlait des abeilles. Aujourd'hui, Georges Brossard, pour l'avoir bien connu, en reviendrait pas là, de ce que nous a dit Louis-Philippe. En même temps, il pourrait corroborer que ça touche effectivement les insectes. Voilà, je voulais juste vous le dire parce qu'effectivement, on vient d'apprendre cette triste nouvelle. Tu disais, Isabelle? Jacqueline est avec nous. Bonjour, Jacqueline.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir, les ordinateurs sont très utilisés aujourd'hui dans les écoles. Ouais. Comment on protège les étudiants?
Bonne question. Stéphane Belinsky?
Bon, on a approché des commissions scolaires avec des enfants qui étaient diagnostiqués avec une condition d'hypersensibilité pour essayer d'avoir un accommodement. Malheureusement, aucune précaution n'est choisie, tout simplement. Donc, la santé publique ne considère que c'est absolument négligeable toute forme d'onde qu'on peut mettre dans les classes. Donc, en ce moment, j'ai des initiatives. Je travaille dans certaines écoles, des écoles privées, des initiatives où est-ce que là... il y a une réduction locale désirée pour la prudence des enfants, mais de façon générale, en fait, c'est un déploiement qu'on assiste en ce moment dans les écoles, alors que dans d'autres pays, c'est le contraire. Mm. En France, ils ont passé la loi Abeille là, pour sortir le Wi-Fi, au moins dans les garderies.
La loi Abeille?
Oui, la loi de la députée Abeille.
Ah oui, ouais. C'est vrai, tout à fait. C'est presque cocasse.
En fait, ces ondes-là affectent la mémoire, affecte la capacité d'apprendre. Mais ce qu'on dit aux commissions scolaires, c'est que si vous n'avez pas du Wi-Fi, vous êtes laissé en arrière, vous n'utilisez pas des méthodes nouvelles. Mmh. Mais en réalité, il n'y a pas d'évidence que ces méthodes-là sont supérieures pour éduquer les enfants. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont moins bonnes.
Il y a beaucoup de questions par rapport justement au Wi-Fi, au réseau sans fil. Les gens demandent, est-ce qu'il faut se débrancher, c'est-à-dire le soir avant de se coucher? Est-ce que le conseil que vous donniez tous les deux, là, c'est vraiment débrancher votre réseau sans fil au moins? Éloignez-vous de votre cellulaire.
On devrait se débarrasser du réseau sans fil. On devrait mettre des fils de catégorie 6A pour l'Internet.
Vous savez qu'on ne le fera pas, là, Paul.
Et
tout le monde
si
veut,
vous ne le faites pas, ben débranchez au moins la nuit quand vous n'en avez absolument pas besoin.
OK. Stéphane, autre conseil?
Téléphone en mode avion, éteignez les antennes que vous n'avez pas de besoin. Votre téléphone a 3 antennes. Pour téléphoner, vous utilisez une antenne qui est le LTE. Pourquoi avoir le Wi-Fi et le Bluetooth qui cherchent à se connecter constamment à côté de vous? Donc, à chaque fois que vous allez désactiver une antenne, vous allez sauver ça sur l'électrosmog ambiant qui est de plus en plus abondant. Donc, il n'y a pas de petite dose négligeable. Chaque petite dose, clavier à fil, souris à fil, ça a l'air un petit peu innocent, mais ça fait une grosse différence pour beaucoup de mes clients qui se remettent au travail là, suite à des pertes là, de qualité de vie. Donc, c'est des choses importantes là, à faire dans les maisons. Débrancher la borne Wi-Fi. Malheureusement, comme le disait M. Héroux, il y a certaines compagnies que même si vous débranchez les bornes, ils continuent d'émettre. Ils ont des piles jusqu'à 6 à 8 heures. Ils continuent d'émettre.
Il y a le voisin. Même si on se débranche, le voisin, lui, est branché. Moi, quand j'ouvre mon réseau, là, je vois mes 10 voisins à côté. Ils ont tous un réseau. Là. Alors,
Le résiduel d'exposition sur votre peau est toujours moins élevé que si vous en avez un à côté de vous dans une pièce adjacente. Donc, vous gagnez toujours à désactiver les antennes autour de vous, même si ça peut être décourageant. J'ai déjà vu jusqu'à 70 réseaux disponibles dans un endroit, mais le global de tous ces réseaux-là, cet endroit-là, était relativement peu élevé que si j'avais mis un Wi-Fi en face de moi, par exemple. Ouais. Donc, on a toujours avantage de désactiver. Il ne faut pas tomber dans le découragement qu'on entend souvent. Dire, là, il y a 20 réseaux, ça me donne quoi de débarquer le mien? Ça donne énormément moins d'exposition sur votre peau sur une longue période de temps.
Diego qui dit, les écouteurs Bluetooth, là, il y en a des gens, ils marchent ils ont tout le temps quelque chose dans l'oreille. On ne sait pas conseiller non plus, j'imagine.
Non, j'ai des gens qui sont d'ailleurs des infections d'oreilles à répétition. Ils changent l'oreillette d'un côté à l'autre. L'infection suit. Donc, il y a des gens qui sont très affectés. Ça affecte tout le monde, mais il y a des gens qui ont des symptômes à très court terme. Et puis là, on n'a pas le choix. On élimine ces systèmes-là. Le Bluetooth, l'avantage, c'est qu'il y a moins d'effets thermiques.
Ouais.
Mais vous rajoutez des doses de micro-ondes parce que c'est d'autres fréquences qui se rajoutent sur les systèmes. On gagne pas vraiment. C'est vraiment utiliser des oreillettes à fil, des technologies AirTube préférablement, pour éloigner l'appareil, désactiver les antennes non utilisées. Les conversations, on les garde courtes pour des téléphones cellulaires. On favorise les textos, comme le gouvernement fédéral le suggère d'ailleurs dans ses conseils pour les enfants en bas de 14 ans. Donc, c'est tous des principes qu'on a, qu'on peut appliquer assez facilement. Et si vous avez un film à télécharger, bien, faites-le à la maison à travers la fibre optique ou un branchement Internet. À fil, plutôt que dans votre poche parce que vous êtes dans l'autobus puis vous téléchargez quelque chose avec une bande passante très élevée dans un véhicule métallisé. Donc ça prend énormément d'antennes et de bandes passantes. Donc c'est sûr que le citoyen, acheter, c'est voter. Donc faites attention à comment vous utilisez, gérez vos technologies, les sources à côté de vous. Vous vous aidez vous, mais votre voisin aussi. Mm. Puis c'est comme ça qu'on va commencer à réduire les expositions.
Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane Belinsky, fondateur et président de 3E, technicien en hygiène électromagnétique. Paul Héroux, qui est professeur agrégé à l'Université McGill, spécialiste de l'électromagnétisme, de ses effets toxiques et des effets sanitaires. Merci beaucoup. Je pense que je t'avais de vous donner une chronique récurrente parce que je pense qu'il va falloir vraiment que ça nous rentre dans la tête. Non pas les ondes, mais bien le contenu pour nous prévenir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci.
On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois le chef Bob. À tout de suite.